j'ai remarqué que quelquefois, en parfumant un peu, enfin, on n'a pas c'est spécial, pour le soir, je mélange un peu les usages occidentaux, mais on peut bien du fond que pour le feu. Mais ce n'est pas très grave. C'est vrai que dans le rite occidental, on avait l'habitude de se donner le baiser de pierre en disant Christ est ressuscité, on donnait la communion en disant Christ est ressuscité. Ce n'est pas très grave, c'est des petits détails. L'essentiel, c'est de célébrer les mystères et de communier. Christ est ressuscité. Alors cet évangile, ce moment de la vie du Christ est extrêmement important. C'est un des évangiles les plus longs de l'année. Avec résurrection de Lazare et la guérison de l'aveugle. C'est très très émouvant. C'est un évangile de Jésus est hyper bref. Le Christ, en trois mots, il vous résume l'histoire de l'humanité. Mais là, c'est très très. Il y a tout un dialogue extraordinaire, très très riche, très savoureux, entre le Christ et cette femme. C'est extrêmement émouvant. Alors, je vous en ai longuement parlé l'an dernier et les autres années. Je voudrais aborder cette année peut-être un ou deux aspects différents. D'abord, souligner que c'était un miracle entièrement gratuit et totalement inattendu. Nous nous préparons en ce moment à la Pentecôte. Vous avez vu, dimanche dernier, l'eau. Aujourd'hui, l'eau. Dimanche prochain, l'eau. L'eau, l'eau, l'eau. On se prépare à l'union de l'esprit, dont l'eau est un des grands symboles, un des plus grands symboles. Eh bien, nous pouvons dire que ce miracle, entièrement gratuit, conforme à l'économie de l'esprit. Et l'Église nous prépare aussi à l'union de l'esprit par cette gratuité, ce côté tout à fait inattendu de ce miracle. Notre relation avec le Fils d'une part, Jésus-Christ, et l'Esprit d'autre part, c'est une relation différente. Parce que leur économie n'est pas la même. Ce que nous appelons l'économie dans la théologie orthodoxe, c'est la façon d'être de chaque personne divine vis-à-vis de la création. Une économie du Père, une du Fils, une de l'Esprit. Ils agissent toujours conjointement, mais distinctement, conformément à leur caractère dit hypostatique, leur caractère personnel. Si deux économies sont conjointes, l'Esprit Saint nous apprend la liberté, la gratuité et l'intériorité. Vous avez vu les temps du peuple. Pourquoi il y a deux parties? Parce que c'est l'économie du Fils et l'économie de l'Esprit. Mais il y a un point en haut, c'est le Père. C'est la grâce est trinitaire. Elle descend dans le monde. Elle vient du Père par le Fils dans l'Esprit. Les franges. La grâce de l'Esprit qui va jusque sur la terre. On est au début de la vie, je répète, l'Esprit nous apprend la liberté, la gratuité et l'intériorité. Alors on va voir ces choses-là. On est au début de la vie publique du Seigneur, ça n'a pas de rapport direct avec le temple de Pâques. Jean n'a pas encore été arrêté. Le Christ a commencé à prêcher avec ses disciples en Judée. Ses disciples baptisent. Et l'Évangile nous précise, lui ne baptisait pas. Parce que lui, il a vu pour un autre baptême. Et les pharisiens apprennent qu'ils commencent à prendre de l'importance. Et à ce moment-là, Jésus, brusquement, décide de rentrer en Galilée. Parce qu'il n'est pas venu pour cela. L'injonction avec Jean-Baptiste est faite, maintenant il va sauver le monde. Il n'est pas venu que pour les Juifs. Et il rentre d'une façon un peu précipitée en Galilée. Il est obligé de passer par la Samarie. La Judée, c'est au sud. Il y a la Samarie et la Galilée. Obligé de passer par la Samarie. Oui. On voit dans l'Évangile, on nous dit qu'il est fatigué. Écoutez bien ceci, parce que c'est très intéressant par rapport à Pâques. Le Christ a endossé librement la nature humaine déchue. C'est pour ça que dans l'Évangile, on nous dit parfois il est fatigué, parfois il pleure, etc. Mais est-ce que vous avez remarqué qu'après Pâques, plus jamais dans l'Évangile, on nous dit il est fatigué, ou il a soif, ou il a faim. Parce qu'il a son corps glorieux, le corps de gloire. Le corps de gloire est libre, il passe à travers la matière. Il est matériel, vraiment. Il mangera pour leur montrer qu'il n'est pas un fantôme. Mais il est libre, il n'a pas besoin de manger. Il n'est pas fatigué. Il s'est acquis par sa passion, par sa mort, sa passion, le droit d'avoir toujours son corps glorieux. Avant, il le cachait. Nuance. Je reviens à ce que je vous disais. La rencontre avec cette femme est fortuite. finalement, elle est prévue par Dieu
dans le Père Céleste.
Mais humainement, le Christ est tout seul. Les apôtres sont partis chercher à manger. Il est fatigué, selon la nature humaine. Tu sais, il fait tout à pied, hein. Il y a 10 heures de marche, hein, donc c'est énorme. Puis il fait chaud. On est dans un pays méditerranéen. Cette femme samaritaine arrive avec sa cruche sur l'épaule, sur la tête. Tout les sépare. Tout. C'est un rabbi. Une femme n'approche jamais un rabbi. Elle ne touche pas un rabbi. Elle ne parle pas à un rabbi, une femme. Elle passe par quelqu'un qui ne connaît pas pour rabbi. C'est un juif et les samaritains. Ce sont des hérétiques. Les Samaritains sont les descendants de cette population mélangée, vous savez, à partir de la fin du 8e siècle. Il y a beaucoup d'Assyriens qui viennent coloniser le Royaume du Nord. Et toute cette population est très mélangée. Et quand on va restaurer le temple vers 400 avec Esdras, il refusera les Samaritains. Il dira qu'ils sont trop impurs. Les Samaritains ne reconnaîtront que la Torah, la loi, pas les prophètes. Les Samaritains n'ont aucune possibilité de savoir que Jésus de Nazareth est le Messie. Rien, ils ne peuvent pas le savoir. Ils n'ont pas de prophète, ils n'ont pas la prophétie d'Isaïe, la Vierge sera enceinte, etc. Ils ne connaissent pas. Tout les sépare. Et ils sont seuls. C'est une situation tout à fait incroyable. Qu'est-ce qu'il y a entre eux?
Le puits.
L'eau. Qu'est-ce qu'il y a entre Jésus et notre tête? L'eau. Ça, c'est intéressant. Un puits. On est dans une zone quasiment désertique. Il n'y a rien qui pousse. Et il y a ce puits profond avec de l'eau. C'est l'image même du Saint-Esprit. Tel est l'Esprit Saint, la vie au milieu de la mort. L'eau, c'est la vie. Tel est l'Esprit Saint. Nous sommes dans un champ de mort. Et l'Esprit est là, il est la vie. Ce puits symbolise la présence personnelle du Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous avons en commun les uns et les autres? Rien! Ça part que Dieu nous ait créé. Rien! Sauf la vie. Ce qui nous unit tous, la vie! C'est-à-dire le Saint-Esprit. C'est ça qui nous unit, qui nous rapproche. On n'a pas de contrat avec les morts. Nous ne sommes plus dans la vie. La vie, c'est ce qui nous rapproche. C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui nous fait proches et égaux. Et c'est l'Esprit qui nous pousse les uns vers les autres. La vie que nous donne gratuitement le Saint-Esprit. Et regardez encore un puits. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans un puits? C'est creusé très profondément pour atteindre la nappe phréatique. Ainsi agit le Saint-Esprit dans la plus grande profondeur de notre être desséché et désertier. Au fond, il y a un puits. Au fond, il y a de l'eau. L'eau, la présence du Saint-Esprit. L'Esprit Saint est l'eau divine qui jaillit dans la plus grande profondeur de notre être. Tous les êtres humains ont cela. Tous. Même les plus athées, même les plus méchants. Tous. Mais l'Esprit attend patiemment. Il nous meurt vers le Christ. Il dit rien, c'est lui. Il attend patiemment, il peut attendre des milliards d'années. Et il dit, pourvu qu'il se convertisse. Mais c'est le Christ qui nous révèle ce mystère. C'est vu, l'Esprit est là, il agit dans le silence et dans la patience. Mais c'est le Christ qui nous révèle, vous avez vu, c'est le Christ qui fait ce grand discours. C'est lui qui nous révèle l'Esprit Saint. Nous faisons quotidiennement l'expérience de l'Esprit. Je ne peux pas vous dire un mot, je ne peux pas faire ça sans la présence du Saint-Esprit. Mais c'est le Christ qui nous dit, c'est l'Esprit Saint. Parce que c'est sa fonction hypostatique de révéler et de montrer Dieu. C'est ce que l'Esprit Saint nous donne d'expérimenter Dieu. Jamais il ne se nomme, jamais il ne dit « je suis Dieu ». Jamais il ne dit « je suis l'Esprit », il est là. Vous avez vu les deux économies du Fils et de l'Esprit qui sont conjointes. Je saute tout le dialogue, parce que je ne peux pas commenter tout, je l'ai fait beaucoup les autres années. Alors il y a tout cet enchaînement merveilleux. Vous savez, la femme, elle ne peut pas aller vers le Christ. Il a, donne-moi. Il a jeté l'hameçon, le poisson a mordu. Puis après, il y a tout un dialogue qui s'enchaîne, qui est une très très belle dialectique. Ils vont progresser ensemble. Il va commencer à l'enseigner. Et il lui parle de l'eau vive. Tout ça, ça concerne le Saint-Esprit, évidemment. Ah oui, l'eau vive. Je vous en ai parlé dans d'autres homélies il n'y a pas longtemps. Un puits, si vous regardez un puits, il n'y en a pas beaucoup en France, mais enfin, de temps en temps, voilà. C'est une eau stagnante. C'est dégoûtant. Si vous allez dans des châteaux, il y a des puits. C'est bon. Parce que c'est une eau. Et le Christ, il va parler d'une source d'eau jaillissante. L'eau vive. C'est pas une eau stagnante. L'eau et l'air qu'il y a dans l'eau. C'est vraiment le beau symbole de cet esprit. Je reviens à ce qu'il lui dit. Et à un moment donné, je lui dis, tout est étrange dans cette histoire, dans cette petite historiette. Il dit, appelle ton mari. Je sais ce que je vais faire maintenant. C'est tout. Hors de propos. Et oui, mais c'était le seul moyen qu'il avait de lui montrer qu'il était prophète. Le seul moyen qu'il avait, sans que ce fût artificiel. Appelle ton mari. Il va lui donner un enseignement. Il vous donne un enseignement intéressant. Vous savez qu'il y avait des règles très strictes dans le monde gréco-romain et le monde juif pour le mariage. C'était la cellule de la société. Une grande partie du mariage chrétien vient du mariage gréco-romain. Et donc c'était très très réglementaire. Mais on pouvait faire ce chemin, mais pas le faire. Le mariage, c'était la voie royale. Il y avait d'autres voies. C'est la voie royale et c'est la voie royale parce que c'est le retour à l'unité de la nature humaine et que c'est le sacrement de l'amour, c'est la voie royale. Mais il y a d'autres voies, tout le monde ne l'entraîne pas. Est-ce que vous avez remarqué que le Seigneur ne lui fait pas la morale? Il ne lui fait pas de reproche. Mais il lui a dit la vérité. Va chercher ton mari. Seigneur, tu es un prophète. Elle n'aurait pas pu le savoir sans cela. Le Seigneur a jeté l'hameçon, le poisson en mordu. La femme voit qu'il est un prophète. L'intelligence de cette femme, elle va profiter de la circonstance pour le questionner. Et elle le questionne avec intelligence. C'est une samaritaine. Les juifs et les samaritains ne sont pas d'accord. Ils posent la question. Où on doit adorer Dieu? Question grave, question rituelle. Ça, c'est vraiment une question selon la loi. Qu'est-ce qu'il y a de merveilleux? Le Seigneur brise ce canon. Ah, les règles. Les canons, les lois, les règles. Les Juifs ont tué le Christ à cause des canons, des règles et des lois. Ils ont dit, tu ne respectes pas la Torah. Mais combien nous avons aussi ce péché dans l'Église? Combien souvent on dit que les canons sont au-dessus de tout, mais c'est la vie qui est au-dessus de tout. C'est notre expérience de Dieu. Ce n'est pas d'appliquer telle ou telle règle. Toutes les lois, règles et canons sont relatifs, ils sont changeants. Le Christ tout de suite brise ce canon. Il dit quelque chose de très fort, pas du tout conforme à l'enseignement des prêtres juifs. L'heure vient, il annonce l'Église. L'heure vient. Et il ajoute, et il est déjà venu. Oui, il est déjà venu parce qu'il est là. L'heure vient, annonce l'Église, et il est déjà venu. Je me suis incarné, je suis devant toi. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça, c'est la grande révélation chrétienne. Toute la théologie trinitaire est là. En esprit, intérieurement, spirituellement, mystiquement, et non plus selon un rituel, non plus géographiquement, non plus à Jérusalem, dans le temple, non plus ethniquement. En vérité, non en apparence, ni selon des images et des symboles, mais conformément à la réalité divine, car vous m'avez vu, je suis l'image du Père. Et vous pouvez me toucher. Vous avez vu? Vous avez compris. En esprit et en vérité, le Père veut être adoré dans son Fils et dans son esprit, et par eux. Les deux mains du Père, comme dit Saint-Irénée, c'est la révélation trinitaire. Adorer le Père en esprit et en vérité, c'est la théologie trinitaire de l'Église. Quel bouleversement, quelle révolution théologique. Alors, dans la société juive d'époque de Christ, c'était un micro-ritualisme. Tout était codifié, le nombre de pas que j'avais le droit de faire pendant le sabbat et faire ses... Christ brise tous les canons. Et maintenant, je suis venu, je suis incarné, je suis le Messie. Vous êtes libre.
Je vous révèle qui était le Guinée.
Et je termine là-dessus. Les Samaritains qui viennent, parce que la femme a dit, il m'a raconté toute ma vie, il sait tout. Ils sont drôlement épatés. Hein. Ils viennent, ils le voient, ils touchent, ils écoutent. Ils sont tellement épatés. Viens chez nous. Et le Christ va chez les Samaritains. Regardez le côté très, très, presque violent de cette chose. Les Samaritains croient en Jésus et Jésus demeure chez eux 2 jours. Et pourtant, le Seigneur, il vient de dire cette phrase étonnante, le salut vient des Juifs. C'est vrai, les Juifs ont gardé la révélation d'Abraham puis de Moïse, le salut est Juif. Et pourtant, les Juifs ne l'ont pas reçu, il va demeurer chez les hérétiques. Liberté du Christ. Vous voyez, il nous apprend déjà à adorer le Père en esprit et en vérité. Ils n'ont pas ce don des règles extérieures, ils n'ont pas en apparence. Mais ça veut dire quelque chose pour nous, les chrétiens orthodoxes. Il ne suffit pas de confesser la vraie foi. Encore faut-il accueillir dans son cœur le vrai Dieu. Christ est ressuscité.
Oui. Oui.